Bonsoir. La RDC classée 156e sur 157 pays dans le dernier rapport de l'indice de perception de la corruption à travers le monde publié hier mercredi par l'ONG Transparency International. Pour le secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et contact national de Transparency International en RDC, ce classement signifie que la RDC figure parmi les 20 pays les plus corrompus de la planète. Ernest Mpararo estime que la nomination d'un conseiller du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption n'a pas apporté des résultats attendus parce que les efforts fournis dans ce domaine ont été insuffisants. Comment analyser ce rapport? Et pour en parler, je reçois Ernest Mpararo. Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Vous êtes président de secrétaire exécutif, voilà, j'y arrive, de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et contact national de Transparency International en RDC. Professeur Saint-Augustin Mwendambali, bonsoir.
Bonsoir, Radio Kapi.
Vous êtes directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et d'éthique professionnelle, également expert du gouvernement en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Alkitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste économique et stratège. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'ONG Transparency International a publié ce mercredi 25 janvier 2016 le rapport de l'indice de perception de la corruption à travers le monde entier. La RDC, classée 156e sur 177 pays, a régressé d'un point, passant de 22 à 21%. Les détails avec vous, Nadine Foulansimba.
La RDC est classée 156e alors qu'en 2015, elle occupait la 155e position. S'il faut établir une comparaison par rapport à l'année dernière, il n'y a pas eu d'avancée. Au contraire, elle a régressé d'un point, passant de 22 à 21%, malgré le fait que le gouvernement s'était engagé à promouvoir la gouvernance et à lutter contre la corruption dans la gestion de la chose publique. Autre point souligné dans ce rapport, c'est le fait que bien que le pays ait nommé un conseiller spécial en charge de la lutte contre la corruption au bureau du chef de l'État, cette nomination n'a pas eu d'impact positif sur les résultats de l'UPC 2016. Toujours dans ce rapport, la LICOCO renseigne qu'en 2016, la RDC avait attiré beaucoup d'attention au niveau national et international sur plusieurs cas de corruption. Nous citons les cas du dossier BGFI Bank, dossier FPI, dossier GKMI, Panama Papers, Fibre Optique, dossier RVA, dossier BIAC et tant d'autres cas. Mais cela n'a pas attiré une grande attention de la part du gouvernement de la RDC et des autorités judiciaires. Et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO, estime que les résultats de l'IPC 2016 doivent être pris avec beaucoup d'importance par les autorités de la RDC et plus particulièrement par les présidents de la République, étant donné qu'ils ont des conséquences sur les investissements extérieurs en RDC, sur la stabilité politique et le développement durable du pays. Car les pays ayant une bonne gouvernance attirent beaucoup d'investisseurs étrangers et cela accroît la croissance d'un État. Parmi les recommandations formulées, la LICOCO exhorte les chefs de l'État à s'impliquer personnellement à travers son conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption pour renforcer son action et aider ses services à collaborer étroitement avec d'autres services de l'État afin de combattre la corruption en RDC. Cette ligue invite aussi à une large coalition de la société civile contre la corruption pour faire pression à la classe dirigeante à procéder urgemment aux réformes administratives et judiciaires importantes pour briser les cycles de la corruption et de l'impunité en RDC.
Merci Nadine Foulansimba. Ernest Mpararo, vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et contact national de Transparency International en RDC. Pour l'année 2016, la RDC occupe la 156e place sur 177 pays. Quels sont les paramètres sur lesquels se base Transparency International pour dresser ce genre de classement?
Merci beaucoup. Effectivement, Transparency se base sur beaucoup de paramètres, sur beaucoup de rapports, dont par exemple le rapport de la Banque mondiale, dont par exemple le rapport de World Economic Forum, dont par exemple le rapport de Mo Ibrahim, dont par exemple le rapport du PNUD, de beaucoup d'autres centres de recherche ou instituts de recherche importants pour effectivement dresser ces classements-là. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire dire par rapport à ces rapports, c'est que le rapport doit nous permettre de conscientiser les Congolais, de conscientiser les autorités congolaises pour que les questions de corruption soient une priorité des priorités dans chaque secteur, que ce soit les entreprises, que ce soit le gouvernement et que ce soit la société congolaise elle-même.
Alors, la RDC n'a pas avancé, par contre, elle a régressé d'un point de 22 à 21%. Nous n'allons pas nous perdre dans les chiffres au risque de ne rien n'y comprendre. Mais Ernest Mpararo, pourquoi, selon vous, la RDC a régressé?
Moi, je pense que le rapport 2016 vient tout juste l'année où qui était prévu pour l'organisation des élections. Et comme vous le savez, il y a un nouveau gouvernement qui devrait être mis en place, ce qui fait que le pouvoir qui était en place depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui a fait beaucoup d'efforts en 2011, 2012, 2013, mais lorsqu'il est arrivé vers la fin du mandat, il a régressé. C'est ainsi que vous avez vu beaucoup de scandales, beaucoup de dossiers de corruption qui sont restés lettres mortes. Aussi, c'est par manque de volonté politique, parce que comme vous le savez, partout ailleurs en Afrique, si vous prenez le Nigeria, si vous prenez l'Afrique du Sud, si vous prenez le Botswana, si vous prenez d'autres pays africains, le Kenya ou la Tanzanie, vous verrez que ce sont les États, ce sont les chefs d'État de ces pays qui prennent à corps les aspects de corruption ou les actes de corruption. Mais ici en RDC, jusqu'à preuve du contraire, malgré la nomination d'un conseil spécial, les chefs de l'État ne montrent pas aux Congolais, effectivement, qu'il doit combattre la corruption sous toutes ses formes.
Dans le communiqué de presse que vous avez publié en commentant ce rapport, vous dites, je cite, le fait de nommer un conseiller spécial en charge de lutte contre la corruption au bureau du chef de l'État n'a pas eu d'impact positif sur les résultats de l'IPC 2016, estime un expert en gouvernance que la LICOCO a interrogé. Le conseiller du chef de l'État, Ernest Mpararo, selon vous, est-il impuissant ou il manque des moyens parce qu'il s'en est plein à un moment?
Je ne pense pas qu'il est impuissant, mais je pense qu'il n'a pas été aidé dans sa mission par les institutions judiciaires. Il avait déjà posé certains actes, et lorsqu'il pose certains actes, il est parti lui-même déposer certains dossiers auprès du bureau du procureur général de la République. Mais quelle a été l'attitude du procureur général de la République? Silence radio. Vous comprenez que dans tous les États, dans la lutte contre la corruption, la justice joue un rôle très très important. Or, jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que le procureur est tellement actif dans les dossiers politiques, dans les dossiers, d'autres dossiers civils, mais il est inactif dans les dossiers de corruption, de détournement, de fraude. Il est vraiment inactif. Si nous prenons un seul cas, par exemple, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, si vous partez à Makala, il n'y a aucun ministre qui est à Makala. Il n'y a aucun PDG qui est à Makala, il n'y a aucun directeur qui a été jugé et emprisonné et condamné sous des faits de corruption à Makala. J'ai le ministère de la Justice, à travers son bureau de lutte contre l'impunité, a fait des recherches au niveau des deux parquets généraux de la ville de Kinshasa et le résultat est accablant. Il n'y a aucun dossier judiciaire qui condamne une autorité pour des faits de corruption depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le ministère de la Justice. Cela fait que...
Et qui n'a rien fait, malheureusement, par rapport à ça, à ce constat-là.
Le constat, c'est que il y a des cas, mais comme il y a des pressions politiques auprès des magistrats, les magistrats ont peur et ils se taisent, malgré le pouvoir constitutionnel que les magistrats possèdent. Le procureur général a des pouvoirs constitutionnels pour traquer tous les actes de corruption. Mais pourquoi il n'utilise pas ses pouvoirs constitutionnels? Pourquoi? Parce qu'il a peur des politiques. Or, un procureur général qui a peur de la politique, des politiques, c'est tellement accablant pour notre pays.
N'est-ce pas paradoxal, Ernest Mpararo, qu'un conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption puisse quand même faire face à des pressions politiques au point que certains dossiers n'avancent pas? C'est quand même curieux.
Et je ne pense pas que c'est curieux, c'est parce que lui est conseiller spécial, il ne doit rendre compte qu'au chef de l'État. Il ne peut même pas...
Qui est le garant de toutes les institutions.
Effectivement. Lorsqu'il a des dossiers, le conseil spécial doit aller présenter les dossiers au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui appelle le procureur général de la République pour l'instruire à poursuivre X ou Y personne. Mais le conseiller spécial ne peut pas poser les actes. C'est un conseiller spécial.
Et quand le chef de l'État ne le fait pas?
Ah, là, ça devient très grave.
Alors, au niveau de la LICOCO, vous estimez que les résultats de ces classements doivent être pris avec beaucoup d'importance par les autorités de la RDC, plus particulièrement le président de la République. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que les autorités congolaises prennent la véritable mesure de la corruption en RDC?
C'est que nous constatons des faits. Par la théorie, oui, on nous chante chaque jour, non, il y a la bonne gouvernance, il y a la transparence, ça c'est la théorie. Mais les faits sont là. Jusqu'aujourd'hui, je vous ai donné des cas. Le dossier Biak, par exemple. Le dossier Biak, il y a 400 000 épargnants qui sont en train de demander leur argent. Or, nous savons comment est-ce que cette banque a été gérée. Il y a eu des rapports qui ont été faits par la Banque centrale. La Banque centrale a porté plainte elle-même auprès des cours et tribunaux. Quel est le résultat? Tous les responsables des BIAC circulent librement et demain vous les verrez, ils seront des députés avec l'argent des épargnants qu'ils ont détourné. Ils seront des députés demain. Donc, nous constatons effectivement qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas des actes que le gouvernement pose pour dire écoutez, voici tel acte, voici tel ministre, voici tel directeur général, voici tel général, voici tel chef de division qui est arrêté, emprisonné, jugé par rapport au fait de corruption. Il n'y en a pas.
Professeur Saint-Augustin Mouindambali, vous êtes directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et d'éthique professionnelle, également expert du gouvernement en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Comment vous avez accueilli ce classement de Transparency International?
Merci beaucoup, Radio Capi. Il est vrai que je n'ai pas été tellement surpris par la régression de la note attribuée à la RDC. Le climat que connaît le pays ces derniers temps prêtait bien à cette interprétation, parce qu'elle ne pensait pas que c'est seulement la corruption qui est cotée. Les hésitations qui ont accompagné la tenue du dialogue national était mal perçue par l'extérieur. Et il est vrai, c'est toujours là où il y a la guerre, là où il y a le déficit de démocratie, où il y a plus de corruption. C'est un adage qui est connu de tous. Bon, ça ne m'a pas surpris d'abord pour la simple raison. Nous avons adressé une lettre à Transparency International lui faisant des observations sur le critérium des cooptations des pays corrompus et des pays non corrompus. Nous avons démontré que l'indice de perception de la corruption, la perception en psychologie signifie quoi? C'est l'appréhension de l'esprit, d'un objet par l'esprit, cette appréhension peut-être d'abord flou, ensuite vague et enfin nette. Ce n'est pas une représentation positive. C'est à partir des données conclues, présentées par un certain nombre d'ONG et de touristes que Transparency International parvient à confirmer son classement. Or, j'aurais souhaité que Transparency International recoure au principe de la présomption de l'innocence. C'est un indice de présomption de la corruption, mais pas de la perception de la corruption. C'est quand on a fourni les preuves, les pièces à conviction, que nous pouvons parler maintenant de l'indice véritable de la corruption. Et jusque-là, regardez les résultats de cette année-ci, sont publiés avec un grand retard suite à nos observations faites à Transparency International. Je reconnais, au Congo, il y a la corruption, comme il y en a partout à travers le monde, mais il y a des efforts substantiels qui sont menés pour y parvenir. La nomination des conseils spéciaux du chef de l'État, la transformation de l'Observatoire du code d'éthique professionnelle en établissement public de l'État, juste de l'autonomie judiciaire. Cela témoigne bien de la volonté des autorités d'aller vers de l'avant. Et je vous apprends que tous les agents de commandement de mon service, depuis le mois de juillet passé, deviennent des OPJ
professeur.
À compétence générale.
Professeur Mendambal.
Pour traquer davantage les corrompus et les corrupteurs.
Professeur oui, Mendambal. Voilà. Oui. Nous comprenons deux choses. La première, vous mettez en doute les paramètres d'évaluation, les critériums de cotation de Transparency International. Deuxièmement, vous dites qu'il y a des efforts qui ont été fournis, mais ces efforts, professeur, ont apporté quoi? Il y a le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption qui semble pratiquement impuissant. Ernest Mpararo l'a dit, il s'est même plaint lui-même à un moment de manquer des moyens. En dehors de ça, il a mené certaines actions qui sont restées sans suite. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça?
Ici, nous nous situons au niveau de l'approche. Si
c'est-à-dire...
le conseil spécial envisage une approche isolée, alors que dans la lutte contre la corruption, il recommandait une approche holistique, c'est-à-dire qui englobe tout le service qui lutte contre la corruption. Et ici, je rejoins le point de vue de mon frère Pararo, à qui je dis bonjour. Il fallait qu'il y ait une coordination des structures qui luttent contre la corruption. C'est au sein de ces laboratoires anticorruption que des dossiers seront étudiés de manière à ce que le Conseil spécial présente les dossiers bancables sur le plan de la lutte contre la corruption auprès du président avec les concours des éléments de la justice. Le procureur général de la République a un rôle à dire. Si nous faisons la prévention, le procureur intervient dans la répression. Et la prévention seule ne suffit pas. Non plus, la répression seule ne suffit pas. C'est au niveau des approches où se trouvent des dysfonctionnements.
Professeur, vous venez de dire que votre service a été transformé, que vos agents deviennent des OPJ, mais vous disposez de quels moyens pour lutter efficacement contre la corruption?
Je vais vous dire ceci. Nous sommes en train d'installer un call center. Il est déjà prêt avec l'appui logistique du PNUD. Ce call center va nous permettre de recevoir les plaintes de dénonciation de citoyens congolais de manière à ce que nous soyons au courant dans le moindre détail de toutes les pratiques qui visent à ruiner,
merci,
à déplier notre économie nationale. L'école centre sera inaugurée très bientôt,
merci, professeur,
par le ministre d'État en charge de la fonction publique.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Alki Tengue, analyste économique et stratège. Comment vous avez accueilli ce rapport de Transparency?
Dans l'indifférence la plus totale, dans la mesure où on en a reçu d'autres année après année, et malheureusement nous n'avons pas un agenda pour adresser les questions qui sont soulevées par ce rapport. Et d'ailleurs, moi je dis encore une fois, c'est que au-delà du rapport de Transparency International, qui devait en réalité travailler sur le prestige international dont regorge notre pays, j'aurais tant souhaité que nous ayons des indicateurs de performance internes qui nous permettraient de savoir, eh bien, nous parlons de la question de la corruption, quel est son mapping, ça veut dire quelle est sa cartographie du point de vue géographique, mais également quelle est sa cartographie du point de vue sectoriel. Quels sont les secteurs les plus touchés et pourquoi? Mais par contre, moi j'ai un autre problème, c'est le problème de l'ancrage de la lutte même contre la corruption. À mon avis, cet ancrage est erroné. On a tendance à penser que les politiques dans notre pays devraient être ceux qui surveillent la cité. Dans tout le monde entier, ceux qui surveillent la cité, ce sont les citoyens, ce qu'on appelle l'opinion publique. C'est pour ça que Transparency International n'est pas une institution de l'État. C'est une ONG, c'est une organisation non gouvernementale qui n'est même pas financée par les États, qui est financée par des gens de bonne volonté et des gens qui pensent que l'éthique et la bonne conduite générale sont nécessaires pour être en mesure de faire avancer le pays. Ce que moi je veux dire, c'est que dans notre pays, très malheureusement, La corruption n'est pas, même pas perçue comme une antivaleur. On a tendance à cohabiter avec, chacun attendant son tour pour qu'il en tire bénéfice. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons difficile aujourd'hui à faire avancer la question, parce que on la retrouve, la corruption, à tous les niveaux. Celle des politiques est plus visible parce que il touche directement au cash, et c'est le cash en grande quantité, et c'est pour ça que on a tendance à faire de cela un scandale. Le malheur est que même dans nos écoles, jusque à la petite école, la corruption est une pratique classique. J'ai envie de dire, nous sommes une société malheureusement fortement corrompue, et s'il faut travailler sur la question, il ne faut pas espérer que ceux qui bénéficient de la corruption, ça veut dire en fait ceux qui sont en position de pouvoir en tirer bénéfice, soit ceux qui génèrent les mécanismes pour lutter contre. C'est une erreur de sociologie assez grave. Moi, je pense simplement que si nous désirons réellement demain en faire une véritable valeur, je veux dire de l'intégrité morale, une véritable valeur, il faut déjà qu'au niveau de la société, nous soyons en mesure de la définir en tant que telle, de la percevoir en tant que telle, et de nous engager à pouvoir la respecter. C'est ce qu'on appelle le contrat social. Chez nous, quand vous êtes un grand voleur et que vous avez détourné les fonds de l'État, vous êtes un grand maître, vous êtes un grand prêtre, vous êtes celui que tout le monde admire parce que vous avez acquis des biens à la suite de ces montants. Moi, j'ai vu quelque chose assez récemment. C'est un ministre gabonais qui a détourné de l'argent et il a été mis à l'écart. Le jour où il quittait son bureau, tout le monde le huait. On appelle ça de la sanction sociale. Chez nous, quand quelqu'un vole et tout le monde a des preuves qu'il a volé, qu'il a détourné, les gens admirent les biens qu'il a acquis.
Alors, il y a des efforts qui ont été fournis par le gouvernement. Le professeur Mwindambali l'a relevé, la nomination d'un conseil spécial en matière de lutte contre la corruption, les services transformés, il y a des OPJ. Quelle évaluation vous faites finalement de tous ces efforts?
L'évaluation est à faire en fonction des résultats que cela donne. Vous vous rendez bien compte que c'est en grande partie des actions très cosmétiques. Souvenez-vous que avant d'arriver au conseil spécial en charge de la lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment des capitaux, il y a eu beaucoup d'autres opérations que le chef de l'État a lancées, les unes après les autres, mais très malheureusement, ça n'a pas donné de résultats. Ce n'est pas la faute du président de la République, c'est la faute de la société. La société tolère cela. Le jour où nous n'en voudront pas, les gens se mettront dans la rue, comme nous avons défendu la Constitution. Les gens vont défendre les valeurs de la société, les gens vont défendre ce qui nous appartient à nous tous. À un moment donné, il ne faut pas espérer penser que les gens qui sont en politique ou les gens qui sont au pouvoir et qui posent un certain nombre d'actes répréhensibles sortent des arbres. Ce sont nos frères, nos oncles, nos tantes et les gens qui vivent avec nous au quotidien. Ils sont là-haut ceux que nous sommes ici-bas. En fait, il faut remettre la société en question, et je pense qu'il est très important que la Ligue COCO et d'autres organisations prennent la mesure de leur action. Moi, je pense simplement que, avant même de lutter contre la corruption, il faut commencer à promouvoir les valeurs. Aujourd'hui, dans notre pays, quand on dit les valeurs, c'est quelles sont les valeurs sur lesquelles nous sommes tous d'accord? Personne ne peut être en mesure de les citer de manière tout à fait viable. On a l'impression que chacun vit dans son silo et chacun pense qu'il peut résoudre ses problèmes de manière tout à fait claire. Mais je voudrais vous dire une chose. Du point de vue économique, la corruption coûte très cher à un pays comme le nôtre. Je peux vous donner des indicateurs. Les gens disent que à la RDC toute seule, la corruption coûte 25 milliards de dollars chaque année. Qu'est-ce que c'est? C'est des choses que nous faisons mal et des choses que nous ne faisons pas. Je vais vous donner un exemple des choses que nous faisons mal, c'est un peu capter déjà les revenus de l'État. Nous les captons de manière tout à fait grave, et vous savez très bien qu'on a parlé à un moment donné du coulage des recettes. Et là-dedans, quand vous allez regarder, c'est des choses incompréhensibles, du genre l'État dit lui-même que lorsque une institution qui est des recettes de l'État a fini de faire son travail, il reçoit 5% des revenus. L'État ne renvoie pas les 5%, et du coup les gens commencent à développer des mécanismes pour être en mesure de se servir à la caisse. La deuxième des choses, c'est un certain nombre de contrats d'État qui devaient être signés, qui ne sont pas signés ou qui sont signés de manière irrégulière. On parle de
tous ces scandales,
par exemple, de tous ces gros scandales à la Gécamines. Et malheureusement, tous ces contrats qu'on appelle léonais, à la fin, moi, je me pose la question de savoir, on a tellement de contrats léonais, est-ce que ce sont les contrats qui sont léonais ou c'est nous qui sommes léonais?
Merci, Alki Tengue. Ernest Mpararoya, pour vous, cette réaction qui nous vient de Lodja.
Gaston Canangelo, depuis la province du Sankuru à Lodja. Je pense que la situation de la corruption dans notre pays est vraiment très catastrophique. Il sera nécessaire de déployer beaucoup d'efforts en multipliant les campagnes de sensibilisation, notamment dans les milieux professionnels éducatifs. En plus, s'en demande l'implication inclusive du gouvernement central en augmentant les sanctions pour les personnes responsables des actes de corruption. notamment les corrupteurs et les corrompus, ainsi que ceux qui favorisent la corruption. Par contre, il est nécessaire de faire comprendre à la population congolaise le bien fondé de cette lutte contre la corruption, la faire savoir que la corruption ne développe pas le pays et nuit à tous les efforts susceptibles d'apporter un changement. Enfin, la lutte contre la corruption demande la participation active de toutes les couches de la population sans distinction des races sociales.
Ernest Mpararo, la sensibilisation à elle seule suffit-elle pour endiguer la corruption?
Oui, pas nécessairement. Nous devons combiner la sensibilisation, la sanction, la prévention.
Une approche holistique.
Effectivement, on doit les combiner ensemble. Que ceux qui doivent faire la sensibilisation font la sensibilisation, ceux qui doivent sanctionner font la sanctionner, ou ceux qui doivent prévenir font la prévention. Mais je suis d'accord avec l'ami de Lodja, étant donné que la corruption, les rapports de Transparency International, c'est un rapport qui prend en compte tous les paramètres. Ça prend en compte, ça vient, il y a beaucoup de facteurs qui tiennent compte des facteurs au niveau des standards internationaux. Il y a par exemple plusieurs fondations, plusieurs centres de recherche qui tiennent compte de toutes ces statistiques-là. Ils font ils mettent en commun tous ces études pour publier ces classements.
Ah, mais vous avez suivi professeur Mwendamba, il dit que la RDC a émis certaines réserves par rapport à ces critères.
Vous savez, professeur Mwendamba, c'est un fonctionnaire, il ne peut que parler comme ça. S'il parle mal du gouvernement, demain on le met dehors. C'est un fonctionnaire, il est un directeur de la fonction publique, il ne peut que parler que comme ça. Mais les réalités des quotidiennes, mon frère Al Kiteng venait de le dire, nous sommes en face des politiques qui, lorsqu'ils détournent, on les prend comme des héros. Parce qu'ils ont détourné des deniers publics. Mais ce n'est pas ça. Les faits sont là. La RDC est en train de régresser. Les faits sont là, ils sont palpables. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez très bien, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui viennent, qui se bousculent. Si vous partez au Kenya, c'est des milliards par an que les investissements extérieurs investissent au Kenya. Si vous partez en Tanzanie, même chose. Si vous allez au Botswana, même chose. Si vous allez à l'île Maurice, au Rwanda ici, je vous donne le Rwanda. Le Rwanda a mis en place un système de gouvernance tellement bon que aujourd'hui, si vous partez dans un vol Kinshasa-Rwanda, vous verrez que 80% des passagers sont des blancs. Parce qu'ils viennent là où la gouvernance est bonne.
Il y a cet auditeur, Matumaini Franklin de Bukavu, qui dit « Le mal de la corruption est qu'elle touche et handicape tous les secteurs de la vie et interpelle tout le monde. La position de M. Mpararo à ce sujet me paraît limitée et subjective, étant à confirmer la conception qui se fait sur la RDC comme un État où tout se joue autour du chef de l'État, alors que celui-ci a fait preuve d'une volonté politique par la nomination d'un conseil spécial. Il revient donc à chacun de jouer sa part en prenant ses responsabilités, M. Mpararo.
Effectivement, si moi je prends un seul exemple, je vais au Nigeria. Il y a eu un ancien président qui était là, il y a un nouveau qui a fait sa campagne électorale seulement pour lutter contre la corruption. Lorsqu'il est arrivé, il a commencé à faire arrêter des gens. Après enquête, après audit, on constate que tu as mal géré, on te sanctionne. Aujourd'hui, le Nigeria a récupéré plus de 19 milliards de dollars. Et cet argent, on les a injectés dans l'économie nationale. Ici, chez nous, en RDC, il y avait, je vous donne un seul exemple, ma tata, lorsqu'il est arrivé, l'ancien premier ministre, il est arrivé, il a mis en place des commissions d'enquête dans les entreprises étatiques pour savoir comment est-ce que ces entreprises sont gérées. Vous savez les résultats? La présidence lui a dit, il ne faut pas amener vos jars technique. Il a arrêté. Alors, ça, c'est ma tata seulement. Alors, dans tous les autres pays, c'est le chef de l'État qui doit donner le go. À partir d'aujourd'hui, vous devez stopper. Celui qui sera pris, mais dans les sacs, on l'arrête. Dans plusieurs, au Rwanda, c'est Kagame. Kagame, on l'appelle au téléphone. Le chef de l'État du Rwanda. On l'appelle au téléphone. Tel gouverneur a volé. Demain, on te met en prison. Au Rwanda.
Alors, Ernest Mpararo, vous parlez du Rwanda, et c'est le cas de parler de l'Afrique centrale. Dans votre communiqué de presse, vous dites au niveau de l'Afrique centrale, les résultats de l'indice de perception de la corruption 2016 donnent une moyenne de 20 à 25% comme score, ce qui confirme le degré élevé de la corruption dans cette région, avec comme conséquence les grandes inégalités sur le plan social, des instabilités politiques et la pauvreté élevée dans cette région.
Effectivement, lorsque le classement de Transparency démontre effectivement ce que nous vivons aujourd'hui. Si vous partez au Cameroun, 27%. Vous partez en République centrafricaine, 21%. Vous allez au Tchad, 19%. Vous partez en Guinée, c'est 28%. Vous partez dans tous les pays de l'Afrique centrale. Les 9 pays se marquent, c'est le score qui est moyenne 20-25. Et cela montre, regardez au Gabon, c'était quoi? Regardez au Congo-Brazzaville, l'insécurité, la non-démocratie. Vous partez au Congo, en Angola, même chose. Malgré qu'il y ait une grande richesse de pétrole, mais 80% de la population est pauvre. Vous partez au Tchad, c'est la guerre, les conflits, ainsi de suite.
Merci.
Donc, les rapports nous font, ce sont des faits qui sont là, ce sont des faits que nous vivons, que les rapports viennent de nous dire. Ce n'est pas une histoire fictive.
Merci.
Ou quelque chose que, non, mais ce sont des faits qui sont là.
Professeur Saint-Augustin Mwendambali, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
C'est ça, Radia Moukizate, depuis la ville de Bukavu, voisin du sud Kivu. Je pense que nous n'avons pas besoin de rapports venant de l'extérieur pour établir que la corruption est érigée comme mode de gestion dans notre pays. Rien qu'à voir le comportement de nos dirigeants à tous les niveaux, c'est malheureux de constater que le gouvernement qui est en place a déjà multiplié beaucoup de slogans, entre autres les prisons sont ouvertes, la fin de l'impunité, et voire même la plainte du conseiller du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, qui à son actif aura fait deux plaintes qui sont gardées jusque-là dans le tiroir. Je pense que cela traduit la mauvaise foi de nos dirigeants politiques qui refusent de suivre la chaise sur laquelle ils sont assis.
Professeur Mwendambali, qu'est-ce que vous lui répondez?
Effectivement, il est libre de ce qu'il a dit, qu'il y a la mauvaise foi de certaines autorités, mais il serait erroné de pouvoir généraliser ces constats. Je prends un seul exemple. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a des activistes de la société civile. Je parle ici du Gabon, je parle ici du Tchad, et plus loin, Tunisie ou quoi, où nous avons vu des activistes de la société civile porter plainte pour pratiquer des corrections devant les cours et tribunaux. Qu'est-ce qui empêcherait mon ami Farao? Qu'est-ce qui empêcherait les activistes de Transparency International de faire de même devant les cours et tribunaux et qu'on constate qu'il y a un refus de pouvoir légiférer là-dessus? La mauvaise foi, je ne la vois pas parce que la lutte contre la corruption est un processus. On a commencé par la prévention, on est maintenant entré dans la phase de détection-investigation et on va déboucher par la voie des répressions. Mais cela suppose qu'il y ait des instruments de lutte contre la corruption qui puissent nous mettre à l'abri de ces sentimentalismes. La loi portant prévention et répression de la corruption n'est pas encore là. On n'utilise que des fragments de quelques trois articles du code pénal, notamment, je vous donnerai, la loi Sakarnev-Kenki, qui dit que on ne peut pas condamner quelqu'un de calomnie pour, de bonne foi, il a dénoncé des pratiques de corruption. C'est déjà un début qui sécurise le citoyen pour pouvoir dénoncer les pratiques de corruption. Mpararo qui vous parle devant vous, il a utilisé des mots parfois durs, mais corrects, envers le gouvernement, mais il n'est pas inquiété. Et comment c'est moi les fonctionnaires de l'État qui devrait être inquiété à la place?
Professeur.
Non. Oui.
Professeur, il y a cet auditeur Patrick Mbouli de Lubumbashi qui dit « Je crois que ce rapport va interpeller la classe politique dans son ensemble, mais beaucoup plus le chef de l'État, car c'est lui le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays. Et ce rapport prouve que l'action du chef de l'État pour lutter contre la corruption est sans impact. Je pense que ce rapport fait également la honte de notre pays et chaque Congolais, là où il est, doit lutter contre la corruption qui est un mode de gestion en RDC. »
Tout à fait d'accord, le président de la République peut être interprété, interpellé, mais n'attendez pas que le président de la République descende dans les services de l'État pour y traquer les corrupteurs et corrompus. Je crois que nous sommes les relais, la société civile, le monde des affaires, les institutions publiques, et nous avons signé un pacte anticorruption entre les trois composantes, nous tous, nous sommes partie prenante du combat contre la corruption. Il n'y a pas lieu d'accepter à ce qu'on endosse cette responsabilité, essentiellement au président de la République. Il y a un adage qui dit ceci dans une des langues africaines, jamais un roi ne peut attraper un voleur.
Professeur, vous avez dit tout à l'heure que la RDC a émis des réserves par rapport aux critériums sur lesquels se basait Transparency pour dresser ce classement. Mais quels sont les indicateurs de performance interne de lutte contre la corruption dont dispose la RDC?
Bon, parmi les indicateurs que dispose la RDC, nous avons mis en place un système d'enquête que l'OCEP a mené. Il y a eu 3 enquêtes successives qui ont montré que il est vrai que la population, 50% de la population congolaise,
nous parlons des critères, professeur.
Pratique de corruption. Le premier instrument, c'est là, parce que je vais vous montrer. Nous avons transformé l'indice de perception de la corruption de Transparency International en indice de présomption de la corruption, qu'on peut calculer avec 2 variables. Il y a d'abord le revenu mensuel des agents publics et de l'État,
professeur,
divisé par le revenu général issu des dépenses de cet agent.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure pour d'autres détails à ce sujet. Al-Kitenge, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de l'ICASI.
Jean Kiza depuis l'ICASI. Cette lutte ne peut trouver une solution que si le social était amélioré, car nos dirigeants prennent le pouvoir en étant pauvres. Et de leur part, ils cherchent d'abord à s'enrichir, et cela par la voie de la corruption. D'où ne pas embaucher les gens sans compte en banque pourrait remédier à cette situation, car le développement de notre pays en dépend.
J'ajoute cette réaction de Yannick Kandolo de Kinshasa qui dit l'instauration d'un véritable état de droit est le socle du changement tous azimuts. Nos décideurs politiques doivent se sentir interpellés et saisir l'occasion avec les accords de la Saint-Sylvestre pour un bon début. Je suggère que fera partie du prochain gouvernement un ministre qui n'a jamais trempé dans la corruption ou détournement de quelque nature que ce soit. Nous voulons des hommes politiques modèles. Al-Kitenge.
Merci. Je vais commencer par l'intervention de Kandolo. Moi, je voudrais simplement lui dire, l'orientation politique d'un pays dépend de l'aspiration de son peuple et de sa demande. Les dirigeants font ce que la population demande. Et dans notre pays, les gens sont tellement complaisants avec la corruption, personne ne relève les questions de lutte contre la corruption au niveau des priorités. Par contre, Kiza parle du social des agents de l'État comme si c'était les agents de l'État qui étaient responsables. Les agents de l'État, on leur demande de l'éthique. Avant de leur demander de l'éthique, il faut leur donner de l'équité. Il faut les prendre en charge. La faute des hommes politiques congolais, et malheureusement le temps leur montre le contraire, c'est de penser qu'ils peuvent faire une protection sociale individuelle. Ça ne marche pas. Par contre, moi j'ai envie de vous dire une chose. La plus grosse difficulté de notre pays, c'est la gouvernance elle-même. L'information. Comment nous gardons l'information? Toute l'information congolaise est sur papier. Le monde entier est passé en mode numérique. L'information qui est numérisée, elle traverse le monde entier. Et c'est comme ça que nous avons accès à des rapports à l'instant T quand ils sortent. Et je pense que la modernisation de l'appareil de l'État pourrait permettre de réduire cela. Deuxièmement, il faut que les organisations comme la LICOCO et d'autres soient en mesure de sortir des rapports internes. Ça nous permettra de savoir quelles sont les provinces les plus corrompues, quelles sont les autorités dans ces provinces qui sont les plus corrompues, quels sont les secteurs dans lesquels on a le plus de corruption et quels sont les mécanismes par lesquels la corruption est opérée. Je vous donne une illustration simple d'un crime que je peux considérer comme un crime social. Tous les hôpitaux publics sont tombés en faillite en République démocratique du Congo pour deux bonnes raisons. La fraude identitaire, parce que la carte des endroits que l'on donnait à l'époque, un bout de papier, mon oncle, ma tante et toute la famille se faisaient soigner comme étant des fonctionnaires de l'État alors qu'ils ne l'étaient pas, mais également la fraude comptable. Tous nos hôpitaux, tous sont gérés sur papier, bien entendu, la grande partie de l'argent qui arrive est détournée. Et ça, nous sommes dans une question qui nous touche tous, la question de la santé. Une manière de vous dire, la corruption, oui, bien sûr, elle touche le monde économique, mais elle touche terriblement le monde social et touche la société. Il est important qu'on se remette en question. Nous sommes en train de mourir à petit feu et nous allons arriver à la catastrophe parce que nous avons une tolérance collective inacceptable de cette antivaleur.
Kapinga Placide de Chikapa dit, ce n'est pas ceux qui ont la mauvaise volonté qui tuent le pays, mais ceux qui laissent faire, c'est-à-dire nous, la population.
Et il a totalement raison.
Il vous rejoint. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour endiguer cette corruption en RDC?
D'abord, il faudrait être en mesure, nous, Congolais, de témoigner de notre attachement aux valeurs et aux besoins de transformation de la société. Par exemple, les institutions comme l'ICOCO et d'autres devraient bénéficier du financement populaire et non du financement de l'État. Parce que ceux qui financent sont ceux-là qui demandent ce qu'il faut que l'on fasse. Moi, j'observe par exemple que la plupart d'organisations non gouvernementales qui fonctionnent et qui donnent des résultats corrects, en réalité, sont financées par des gens qui croient que ce qu'ils font est important. Il faut beaucoup d'argent pour être en mesure de sensibiliser les gens. Mais autant les gens se mettent debout pour des causes politiques, les gens devraient se mettre debout pour les valeurs. Il est important qu'on désintoxique la communauté. Nous sommes dans une situation où, malheureusement, les antivaleurs ont plus de place que les valeurs. Le silence coupable dans la communauté et dans la communauté dirigeante est totalement inacceptable. Nous sommes une république qui sent mauvais. Quand on parle de nous, on a l'impression que ici, et c'est un pays sans loi ni foi où autorité et population se conduisent d'une manière complètement inacceptable. Et aujourd'hui, les indicateurs de la corruption, c'est le choléra en pleine ville, c'est les bidonvilles dans la capitale, c'est
des poubelles
qu'on ne sait pas évacuer. Et ça, c'est des indicateurs visibles et palpables au quotidien de ce que la corruption peut faire. Et tout à l'heure, je vous donnais un indicateur d'un chiffre minimum de ce que nous coûte aujourd'hui la corruption en République démocratique du Congo. Et je vous disais, c'est 25 milliards de dollars. Rendez-vous bien compte que c'est 5 fois le budget.
Alors, la LICOCO appelle à la mobilisation générale des citoyens à dénoncer les pratiques de corruption. Le call center dont parlait le professeur Mwendambali, peut-il être une solution?
D'abord, il faut former les gens à identifier le mal. Vous savez, jusqu'à nos enfants, dans nos écoles, dans nos universités, la pratique de la corruption semble être la solution normale et on la tolère. Et ça va très loin. Il faut déjà être en mesure de sensibiliser les gens et faire admettre le constat selon lequel la corruption nous coûte très cher. Pour que les gens dénoncent, il faut qu'ils trouvent la peine de dénoncer. Ça veut dire que quand ils dénoncent, ils voient qu'on prend des mesures et que ces mesures corrigent la situation.
Et en guise de conclusion?
Ma conclusion est très simple, c'est que la corruption est un phénomène dévastateur. Il est important que l'on fasse de la corruption, non pas la lutte, mais qu'on fasse la répression de la corruption. À partir du moment où on fait la répression, on doit passer rapidement à la phase de la prévention. Et pour ça, il faut faire la promotion des valeurs.
Ernest Mpararo, la LICOCO invite également à une large coalition de la société civile. On ne sent pas vraiment la société civile bouger beaucoup dans ce domaine également.
Effectivement, vous avez raison. Regardez les pourparlers politiques. Ils sont tellement actifs, hein, les acteurs, parce qu'ils cherchent des postes. Mais si des questions de corruption, tout le monde fouille. Cela étant, comme Alki Tengela dit, nous, au niveau de la LICOCO, au niveau de cette année, en 2017, nous allons publier un rapport d'indice de perception de la corruption de la RDC. Cet indice va nous montrer comment est-ce que les Congolais, quelles structures que les Congolais pensent être les structures ou les institutions les plus corrompues par rapport à d'autres. Dans quel domaine? Et c'est dans l'éducation, et dans la santé, et c'est la douane, et dans la police.
Alors, quelles sont les solutions pour
les solutions,
endiguer
nous,
la corruption?
Nous l'avions déjà dit. Nous demandons aux Congolais, boya, pour dénoncer la corruption. Boya. Il faut venir dénoncer la corruption. Dénoyez, père, n'ayez pas peur. Vous avez nos téléphones, nous avons un site internet. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Dénoncez, bo bang, de mon côté.
Merci. Professeur Saint-Augustin Mwendambali, pour vous, les solutions passent par quoi pour lutter efficacement contre la corruption?
Passe par l'élaboration d'une loi pour la prévention et répression de la corruption. Vous avez vu deux ministres déclarer leurs avoirs. Le président en a fait de même. Mais quel mode de déclaration? Avons-nous des modèles de déclaration? Donc il faut une loi portant régime de déclaration des avoirs. La loi qui a été recalée par les députés qui ne veulent pas déclarer leurs avoirs au nom des immunités qu'ils veulent préserver. J'aimerais que cette loi soit adoptée et promulgué par le chef de l'État.
Merci, professeur. Merci. Cette émission est terminée. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci à Kevin Kouté, Berry Franklin Luchaka, qui ont travaillé sous la supervision de Félix-Équipe Lamondo. Alain Goy était à la mise en onde. Présentation et coordination, Alain Roumouchige. Au revoir.